Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons continuer notre étude sur le Cantique des Cantiques. Ce sera la 10e étude, 10e partie, et je vais vous indiquer un texte qui est le dernier chapitre donc de ce livre. C'est le chapitre 8, et nous allons faire une courte lecture de quelques versets. Voilà ce que nous lisons. « Oh, que n'es-tu mon frère, allaité des mamelles de ma mère, je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai, et l'on ne me mépriserait pas. Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère, tu me donneras tes instructions, et je te ferai boire du vin parfumé, du moût de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillée sous le pommier, là ta mère t'a enfantée. C'est là qu'elle t'a enfantée, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible, comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. » Voilà, nous retrouvons pour l'avant-dernière fois Sunamite et son bien-aimé. Je rappelle le principe, Sunamite c'est la fiancée, c'est la jeune fille qui est là en effet amoureuse d'un roi qui est appelé dans le texte le bien-aimé. Et le parallèle que nous pouvons faire, c'est celui de Christ avec son Église. Sunamite peut représenter tout simplement, c'est une anticipation de l'Église que nous découvrons dans le Nouveau Testament. Et puis le roi, eh bien, c'est tout simplement Jésus, le Christ. Ici, et en conclusion de ce livre, c'est l'apothéose de leur amour qui est présentée, c'est-à-dire l'amour plus fort que tout. C'est un amour triomphant, aimé au plus fort de son intensité, ne veut pas dire posséder pour soi, pleinement et définitivement, puisque Sunamite parle de ce qu'elle ferait si elle en avait l'occasion. Et le verset premier nous explique que l'occasion est donnée à travers ses paroles, et elle dit ceci: « Oh, que n'es-tu mon frère, allaité des mamelles de ma mère, je te rencontrerai dehors et je t'embrasserai. » Et elle ajoute « Et l'on ne me mépriserait pas. » Alors c'est vrai que c'est un verset qui est quand même assez ambigu, et on va essayer de le comprendre maintenant. Combien Sunamite désirerait que celui qu'elle aime soit son frère, plutôt son frère, pour pouvoir l'embrasser, et l'embrasser tout à sa guise, c'est-à-dire lui manifester son amour devant tous, sans inconvenance, mais elle n'en a pas la liberté, parce qu'un amoureux n'est pas un frère, et quelque part elle voudrait avoir cette liberté de pouvoir embrasser son amoureux comme elle pourrait embrasser tout simplement son frère. Et elle ajoute, et l'embrasser devant tous, si c'était ainsi, eh bien, lui attirerait que du mépris. Elle ne peut le faire décemment. Et nous allons nous transporter maintenant dans cette image de Christ de l'Église. Nous allons reporter cette image tout simplement dans la révélation de l'Évangile du Nouveau Testament. Et pour nous dire tout simplement que les rapports de l'Église vis-à-vis de Christ qui est son époux, comment l'Église peut-elle se comporter aujourd'hui vis-à-vis de celui qu'elle aime, c'est-à-dire son Sauveur et son époux. Dans sa situation actuelle, l'Église ne peut que soupirer et désirer, et c'est pourquoi elle s'exprime à travers cette expression « Oh, que n'es-tu mon frère ?» La parfaite intimité avec celui qu'elle sert et qu'elle aime. La parfaite intimité de l'Église avec tout simplement le Christ, et qu'elle voudrait bien lui prodiguer toute son affection, mais il y a quelque chose qui fait obstacle. Ce qui rend difficile et toujours incomplet cette intime réunion, ce qui sépare encore, c'est le monde incrédule qui rejette Christ. Parce que ce monde est plein d'animosité, d'inimitié contre en effet, la dimension spirituelle est tout simplement la dimension de Jésus. Et ça, c'est la folie des hommes inconvertis qui s'opposent, eh bien, non pas aux religieux, mais à tout ce qui a une connotation ou une essence même spirituelle. Le monde n'aime pas le spirituel, ce spirituel révélé à travers l'Évangile. Et entre autres, eh bien, Christ est celui qui est au cœur de cet Évangile. Combien l'Église aimerait faire connaître à tous celui qu'elle aime, mais la liberté lui manque parce que la crainte d'être méprisée la retient. Exprimer ouvertement notre amour et notre attachement à Jésus-Christ ici-bas ne peut que nous attirer la moquerie, la haine, le mépris de nos semblables, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'un chrétien puisse avoir autant de liberté et autant d'élan et autant de sentiments que nous exprimons à travers nos cantiques, à travers la prière à haute voix, à travers cet attachement que nous avons à la parole de Christ, c'est-à-dire à la Bible. Et le monde ne peut pas comprendre ça parce que il pense qu'il y a là une sorte de fanatisme qui est incompréhensible en effet pour les gens. Nous l'avons tous ressenti cette souffrance. C'est une souffrance et un fardeau. Et nous n'avons pas à être étonnés au-delà de toute mesure parce que Jésus nous prévient, il prévenait déjà ses disciples dans l'évangile de Jean quand il dit ceci au chapitre 15 et au verset 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Voilà ce que Jésus nous explique. Et c'est vrai qu'être disciple, eh bien, c'est véritablement un combat, une lutte. Et Jésus, donc, nous rassure dans ce sens parce qu'il nous dira également « Prenez courage ». J'ai vaincu le monde, alors ne vous découragez pas, ne vous attristez pas. Voilà la condition de l'Église des chrétiens qui veulent servir et aimer Jésus-Christ avec une démonstration tout simplement de leur foi, une foi spirituelle. Les chrétiens ne sont pas libres d'aimer pleinement parce que subsiste anormalement une retenue, une fausse honte, une crainte confuse d'être mal jugé par ceux du dehors. Et cela en raison simplement parce que nous aimons Christ. Est-ce honteux d'aimer Jésus? Est-ce inconvenant d'aimer Jésus? Est-ce indécent de le servir? C'est pourquoi Tsunami dira « Eh bien, connais-tu mon frère? Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai. » Et là, à ce moment-là, eh bien, l'on ne me mépriserait pas. Alors voilà donc la première explication de ce verset. L'amour qui triomphe est celui qui vainc le jugement du monde. Et ça, c'est la première victoire. Alors, comment pouvons-nous nous débarrasser de cette retenue non fondée et recouvrer une pleine assurance dans notre liberté d'aimer ouvertement Jésus? C'est le verset suivant qui nous le dit. « Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère, tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé, du moût de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. » Tsunamite désire conduire celui qu'elle aime dans une plus grande intimité et elle le presse de venir avec elle dans l'endroit familier, l'endroit qui lui est familier, le plus familier, c'est la maison de sa mère. Dans l'Apocalypse aussi, c'est l'Esprit de Christ qui frappe à la porte pour entrer et qui dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui », ce qui sous-entend qu'en effet il y a une intimité dans la mesure où nous invitons Christ dans notre vie, que nous le faisons entrer et que là nous pouvons véritablement eh bien, avoir cette relation de grande intimité. Cette proposition qui nous est faite dans l'Apocalypse eh bien, revient justement à cette pensée « Je veux t'amener dans la maison de ma mère, là où on ne sera pas dérangé, là où on ne sera pas jugé et là où on ne sera pas moqué. » L'intimité favorise la connaissance pour apprendre de Christ, pour apprendre de lui. Et il est dit ceci, tu me donneras, Tsunami te dit, tu me donneras tes instructions. Nous pensons dès lors à cet épisode où Marie, qui avait choisi la bonne part, et dans le calme de sa présence, dans le calme de la présence de Jésus, alors qu'il y avait en effet tous ceux qui l'entouraient dans la maison, les disciples, eh bien l'âme y découvre le soutien divin. Et c'est pourquoi il est dit dans le verset 3, sa main gauche sous ma tête, c'est un soutien. Et la tendresse d'être aimé, sa droite m'embrasse. Il y a à la fois le soutien de Christ pour l'Église, il y a la tendresse, l'amour de Christ, le sentiment d'être aimé, c'est pourquoi il dit « mais ta droite m'embrasse ». Tout cela s'appelle le repos. Et nous voyons bien avec Marie, elle était là, non pas affairée comme sa sœur Marthe, mais elle était dans le repos, dans la tranquillité, un repos dans la présence de Christ qui touche nos âmes, notre conscience, notre pensée, et cela qui est saisi par la foi, ce qui nous amène au verset 4. Et c'est Salomon qui dit aux filles de Jérusalem, « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. » Ça, c'est une parole qui est répétée par deux fois, « Ne réveillez pas l'amour. » Et ça s'adresse aux filles de Jérusalem, qui est l'image emblématique du monde et des vierges folles que nous trouvons également dans une parabole de Jésus, dans Matthieu chapitre 25. Voilà, donc c'est une adresse, la réponse vient de Salomon, c'est-à-dire, en quelque sorte, par transposition, c'est Christ qui s'adresse en quelque sorte au monde en disant de Tsunamite ou en disant de l'Église, tout simplement, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Que rien ne vienne troubler, détourner, voire même contrarier cette douce intimité si ceux du dehors ne veulent pas savoir et qu'ils méprisent ce qu'ils ne comprennent pas, eh bien, en quelque sorte, ça veut dire tant pis pour eux. L'intimité de la maison est mille fois préférable. C'est vrai que la rencontre de Christ avec son peuple se trouve dans l'intimité, dans des lieux qui sont tout à fait appropriés pour cela, où nous sommes quelque part en dehors du monde, et c'est pourquoi justement la signification grecque du mot « ecclesia », « église », eh bien ça veut dire « mise à part », pour être justement dans cette communion tout à fait privilégiée où nous pouvons exprimer notre amour à Christ à travers des cantiques, à travers des louanges, à travers l'adoration, autour de sa parole, comme Marie qui était à ses pieds dans ces circonstances, et ce qui fera dire au psalmiste qui écrira dans le psaume 84 et verset 11, eh bien, une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Ça, c'était le premier triomphe, la victoire de la crainte du monde pour pouvoir aimer Jésus en toute sérénité. Le second triomphe de l'amour consiste à défendre ce privilège de paix et de communion et surtout de le garder. Et ça, c'est le plus grand trésor dont nous disposons. La première partie du verset 5 nous dit ceci, et c'est la réponse du monde, donc les filles de Jérusalem. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Donc je précise, ça c'est la réponse de l'extérieur, les gens qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre, qui sont en opposition, les moqueurs, ceux qui en effet traduisent parfois même de l'inimitié, on les appelle les filles de Jérusalem. Dans ce passage, Tsunamite est vue montant du désert. Le désert est la condition présente de l'Église dans le monde. C'est ce que nous avions vu déjà précédemment dans nos recherches, dans nos méditations d'il y a quelques semaines. Donc, je le répète, le désert est la condition présente de l'Église dans le monde. Parce que cette Église, elle est souffrante pour sa foi, elle est combattante pour défendre sa foi. Et nous savons, Seigneur, nous savons que tout cela, eh bien, là, c'est un combat et une lutte. Le mot intéressant est cette expression « appuyée » sur son bien-aimé. L'Église est appuyée sur Christ. Nous avons ici le secret de la vraie force et de la vraie liberté pour autant que la force et la liberté ne s'acquièrent qu'en prenant appui sur le Seigneur. Ça, nous le savons. Toutes les exhortations, tous les encouragements que nous donne la parole de Dieu, c'est de nous appuyer sur nul autre et bien que la personne de Jésus, sur sa parole, sur son exemple, sur ses qualités divines que nous avons, qui nous sont démontrées à travers toute la parole. Donc la force et la liberté, nous pouvons les trouver en trouvant appui sur celui que nous aimons et que nous servons, c'est-à-dire Jésus. Dans le désert, dans le but et la formation du caractère chrétien, et nous le voyons dans l'histoire du peuple d'Israël sortant d'Égypte pendant 40 ans, nous savons que Dieu n'a jamais eu de cesse de former son peuple à la foi et de le former au caractère même de Dieu à travers des principes de bien, des principes d'équité, des principes de vérité, des principes de justice. Et cette mise à l'écart, en effet, du peuple d'Israël hier, comme la mise à l'écart de Tsunamite aujourd'hui, que nous avons dans notre texte, et l'Église aujourd'hui, eh bien, est but de nous sanctifier, de nous régénérer, de nous transformer. Et si nous pouvons nous poser une question, qu'apprenons-nous par les épreuves et autres afflictions, sinon celles-ci, afin qu'elles nous amènent à nous appuyer, ou en d'autres termes, à reposer ou à nous reposer toujours davantage sur le Seigneur. Les épreuves ne sont pas gratuites, elles ne sont pas négatives, elles ne sont pas fortuites, mais elles ont pour but, et particulièrement pour chaque chrétien ou l'Église en général, quelle que soit l'affliction que nous traversons, eh bien c'est de nous amener non pas à compter sur nous, non pas à compter sur des moyens extérieurs, à regarder de ci, de là, mais à nous appuyer exclusivement sur Jésus. Souvenons-nous également d'un autre cas qui nous est présenté, c'est l'histoire de Jacob, dans ce qu'il a passé véritablement cette épreuve cruciale de sa vie au torrent de Jacbot, ça a été la conversion de Jacob, et nous apprenons à travers ce chapitre 32 du livre de la Genèse que Jacob, dans cette lutte à mort, une lutte nocturne, une lutte dans son âme et dans son esprit, il s'appuyait de toutes ses forces, et il s'appuyait pas sur n'importe qui, il s'appuyait sur son adversaire avec lequel il luttait à main nue. Et il a compris qu'à un moment donné, il a fait de la force de son adversaire, de celui-ci, le moyen de sortir vainqueur du combat. Parce que derrière cette présentation, cette image, eh bien, il ne luttait pas contre des hommes, mais il luttait contre Dieu. Et il s'est appuyé sur Dieu, pour avoir la victoire sur lui-même. Alors, nous avons donc ces exemples qui sont présentés. Et puis, il y a un fameux exemple qui nous est donné, c'est de nous souvenir de David, lorsqu'il se trouvait dans une grande détresse, dans la région de la ville de Tziklag, et dans cette contrée, où sa situation était désespérée parce que il y avait eu des ennemis qui étaient venus, qui avaient pillé son camp, qui avaient volé ses trésors, qui avaient volé un butin considérable, qui avaient kidnappé également ses femmes et ses enfants. Et là, tous les soldats qui étaient avec lui, David également, étaient désespérés, au point que le texte nous dit qu'ils pleuraient tous jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus la force de pleurer. C'est pour nous dire tout simplement eh bien, la détresse qui était la leur, mais à un moment donné, dans le même verset, il nous est dit qu'il y a eu un rebondissement, surtout dans la personne de David, il nous est dit « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Tout aurait été là pour le détruire et le neutraliser et le mettre par terre, mais dans cette immense angoisse qu'ils connaissaient les uns et les autres, et David en particulier, il s'est mis à penser à Dieu, et à ce moment-là, il a repris courage en s'appuyant donc sur l'Éternel. Reconnaître notre néant et sa plénitude. Reconnaître notre faiblesse et sa puissance. Ça veut dire tout simplement s'appuyer sur. C'est l'expression de la faiblesse qui s'attache à la force. Ça, c'est la deuxième victoire de l'amour. Parce que nous aimons, alors à ce moment-là, nous aimons Christ, nous pouvons prendre la victoire sur le monde et ses critiques et ses jugements. Nous pouvons prendre également appui, c'est la deuxième triomphe, nous savons où prendre appui. Et en ce qui concerne maintenant le troisième triomphe de l'amour, c'est la confiance, c'est ce que nous pourrions appeler la dépendance totale de Dieu. Et cette dépendance totale de Dieu ne fait pas de nous des captifs, mais au contraire, elle nous fait des hommes affranchis, elle rend libre. Nous allons poursuivre, c'est Salomon, c'est l'époux qui dit cela maintenant au verset 5 dans la deuxième partie. « Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'a enfanté, c'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. » Ceci nous rappelle que nous sommes, ou plutôt ce que nous sommes et ce que nous avons, notre être et notre avoir, ce que nous sommes et ce que nous avons aujourd'hui, nous le devons à la grâce souveraine qui nous a divinement réveillés et arrachés à notre condition de pécheur. Nous ne possédions absolument rien et Christ nous a enrichis par le salut qu'il nous a donné. C'est cette grâce souveraine qui nous réveille et qui nous a arrachés donc à notre condition de perdition. Cette grâce, eh bien, elle s'est manifestée le jour où, en lisant la parole et en faisant foi à l'Écriture sainte, nous nous sommes laissés interpeller. Nous avons pris conscience de notre misère et de notre péché. À partir de cela, nous avons voulu confesser nos péchés. Nous l'avons fait à travers, eh bien, cette expression qui est la repentance. De la repentance, nous avons découvert que Christ est notre Sauveur. C'est lui qui nous sauve et c'est lui qui nous donne la vie. Et la réponse a été donnée par Dieu, c'est pas notre part, c'est la part de Dieu, nous avons été réveillés, et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, réveillés et arrachés à notre condition. Je relis, je t'ai réveillé sous le pommier, là où ta mère t'a enfanté. C'est cet assujettissement qui remonte aux premiers âges, au temps où l'humanité a vu le jour, à l'ombre d'un arbre, qui a été pour l'homme sa malédiction. Là, il est question d'un pommier, on n'a pas besoin de faire une référence particulièrement au pommier simplement dit, puisqu'il n'est pas prouvé de quel arbre il s'agissait, mais peu importe, je t'ai réveillé sous le pommier. Donc, à l'ombre d'un arbre qui a été pour l'homme sa malédiction et qui l'a entraîné dans un sommeil mortel, c'est-à-dire la chute, où l'homme, véritablement, eh bien, a perdu le contact, a perdu la notion de confiance en Dieu, a perdu ce qu'il bénéficiait, c'est-à-dire de l'amour et de la tendresse de Dieu. Alors Dieu peut dire à l'Église, « Je t'ai réveillé ». Chacun d'entre nous, nous pouvons dire, « Dieu m'a réveillé, je suis un homme nouveau, je suis né de nouveau ». Et voilà maintenant, c'est l'épouse qui va eh bien, s'exprimer, elle dit ceci, « Mets-moi comme un sceau sur ton bras, comme un sceau sur ton cœur ». Nous parvenons à ce moment-là, à travers ces quelques paroles, à l'apogée du Cantique des Cantiques. Les versets suivants expriment la place unique et la force invincible de l'amour. Tsunamite déclare à son bien-aimé qu'elle désire être sa plus précieuse possession, comme un sceau. Mets-moi, elle le demande, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, et la jalousie inflexible est la suite. Le sceau, dans l'Antiquité, se portait à la main, comme une bague. Il pouvait se porter également en bracelet au poignet ou encore en pendentif sur la poitrine. Il représentait l'autorité, rappelant le souvenir d'une personne chère ou aimée. C'était cela le sens. Il y avait également des sceaux qui avaient un caractère politique. Il y avait un scellé qui était posé, mais pour une autre autorité. Mais dans ce contexte de notre livre, c'est véritablement eh bien, l'amour qui est au cœur de tout cela. Le sceau sur le cœur est la position la plus proche affectivement. Je pense à l'apôtre Jean au moment du dernier repas de la scène. Jean s'est penché sur la poitrine de Christ. Donc c'est un témoignage. Le sceau sur le cœur est la position donc la plus proche affectivement. Le sceau sur le bras, cela évoque qu'il n'y a pas de limite à la puissance. Le bras, c'est un membre de force. Il n'y a pas de limite à la puissance de celui sur lequel il se confie. Le cœur maintenant, c'est le sentiment. C'est le sentiment. Le bras, c'est la force. Cette image nous rappelle, selon le rapport qui nous est donné dans Exode chapitre 8, comment le nom des enfants d'Israël était gravé, donc inscrit sur les épaules et la poitrine du grand souverain sacrificateur. Que cette partie de ce vêtement s'appelait le pectoral. Il y avait 12 pierres précieuses qui étaient tout à fait chacune d'elles l'emblème des tribus d'Israël. Et nous voyons que le grand sacrificateur portait ce pectoral constamment devant Dieu pour rappeler à Dieu tout simplement eh bien, cette relation, ce choix, cette élection du peuple d'Israël sur le cœur de Dieu. Ainsi, Tsunamite pouvait se dire « J'ai une place sur son cœur et mon nom est sur son bras. » Son cœur, nous le rappelons, tendresse, amour, sentiment, le bras, la force. Et cela m'assure tout simplement l'appui et la protection. L'Église, de la même manière, peut s'en référer à ses paroles et s'inspirer des paroles du livre des Cantiques des Cantiques parce qu'elle trouve à la fois l'appui et la protection et, couronnant tout cela, l'amour de Christ. Il est digne, en d'autres termes, de cette confiance, car l'amour de l'époux a tout traversé, même le plus redoutable. Et le plus redoutable des choses qui n'ont jamais été données au monde, qui n'ont jamais existé, c'est que Dieu s'est fait homme, il s'est incarné, il est venu parmi les hommes, il a pris la condition des hommes, il a vécu avec les hommes, et plus que cela, et plus que pour lui-même, puisqu'il était juste et pur, eh bien il a donné sa vie. Et c'est pour cela qu'il nous est dit, mais l'amour est plus fort que la mort. Et Christ a affronté la mort, non pas pour lui, mais pour chacun d'entre nous. Alors que le Seigneur nous bénisse, nous verrons la prochaine fois, ça sera la dernière étude, l'étude 11, et le titre sera « L'amour, parfum du ciel ». Nous allons nous recueillir quelques instants et demander à Dieu qu'il nous donne toute la compréhension, cet élan, et que nous ayons aucune honte, que nous ayons là, aucune crainte et aucune peur, celui qui nous a appelés est fidèle, et il le demeurera jusqu'au bout, Et plus nous allons dans la vie spirituelle, plus nous rentrons dans la connaissance de sa parole, plus nous allons découvrir et grandir dans son amour. Prions quelques instants maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu nous as rappelé encore ce soir toutes les grandes vérités qu'il peut y avoir à travers, Seigneur, cette perspective entre ce beau livre poétique qui nous parle de cette jeune fille amoureuse de ce roi follement amoureuse de cette jeune fille. Et nous voulons nous reporter, transposer les choses avec d'une grande réalité, d'un grand réalisme, parce que ce livre est un livre prophétique et ce livre nous parle en effet de celui qui viendrait plus tard et qui est venu pour nous maintenant, Christ avec son Église, l'Église, l'épouse, la fiancée tant aimée, pour laquelle le fiancé donne sa vie pour la sauver et pour lui donner de rentrer par la foi dans un royaume qui lui est promis, non pas comme Salomon un royaume sur la terre, mais comme nous l'avons vu, un royaume dans le ciel, un royaume éternel. Merci Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité, et cela au nom de Jésus. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.